Radio Foot International, Hugo Moissonnier.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Comme chaque lundi, je suis ravi de donner le coup d'envoi de la semaine en votre compagnie avec du classique, ou plutôt un classique, trop classique. Une nouvelle fois, le PSG n'a laissé aucune chance à l'OM, et pourtant Marseille n'a pas démérité dans ce qui était sur le papier un choc au sommet de la Ligue 1. Seulement voilà, Paris est trop fort pour le championnat de France, on le savait depuis longtemps, et peut-être trop fort tout court. Les hommes de Luis Enrique sont en train de mettre tout le monde d'accord. C'est peut-être la saison du soulagement pour les suiveurs de longue date du Paris Saint-Germain. Enfin, la libération pour un certain Dominique Sévrac. Bonjour Dominique.
Bonsoir Hugo, bonsoir à tous.
Ouais, elle aura été longue cette route, un chemin de croix même.
Oui, mais c'est pas fini hein.
Vous les croyez toujours capables de se faire éliminer par Emery, Asensio, Lucas Digne, tous les grands anciens? Ce serait bien dans l'ADN.
C'est annoncé dans le titre.
Ce serait bien dans l'ADN PSG. Marc Libra et les Marseillais se contenteront de la deuxième place en Ligue 1 et d'une prestation honorable hier. C'est déjà ça. Bonjour Marc.
Bonjour Hugo, bonjour à toutes et à tous. Oui, c'est pour l'instant deuxième, mais il y a encore 8 journées.
On va en parler. On va en parler dans quelques instants.
Si ça s'arrête ce soir, je serai le plus heureux, mais il y a encore du chemin.
Eh bien justement, on va en parler. Bonjour Chérif Guémour.
Bonjour Hugo, bonjour à tous et à toutes.
Ravi de vous retrouver. Je ne vous ai pas vu ce samedi, Chérif, enchérir, sortir le porte-monnaie pour acquérir un maillot appartenant à un certain Zinedine Zidane. Un maillot qui s'est vendu moyennant une certaine somme lors d'une drôle de vente d'objets de collection ce samedi à Paris. On parlera de cet événement. Mathis Landais sera là. Enfin, d'émission, merci à Salut Diouf pour la préparation. Laurent, le maestro Salerno pour la réalisation. Ils œuvrent en tribune. Radio Foot, c'est parti.
Avec le ballon pour Dembélé, qui se retrouve face à Rouli maintenant. Il a un peu raté sa course. Dembélé pour tenter sa course ensuite. Paris est devant. Et Ben 1-0.
Il n'est pas
hors-jeu, Fabien Ruiz, et il a une vraie possibilité de trouver une solution avec Mendes. Et quelques minutes avant le repos, Paris fait le break. Les voici désormais avec deux buts d'avance. Et malheureusement, ce sera un but contre son camp pour Paul Lirola. 3-1 pour Paris. Même quand on joue bien face à cette équipe-là, il n'y a finalement pas grand-chose à faire. Paris est loin, très loin devant. Invaincu, bien sûr. 19 points d'avance sur son dauphin.
La classe de Laurent Salerno à la réalisation de Radio Foot pour un classique et du classique. Depuis que le PSG est très riche, depuis 2011 et l'arrivée du Qatar précisément, l'OM ne peut plus rivaliser avec le club de la capitale. Pourtant, l'OM de cette année, c'est pas si mal. Marseille deuxième de Ligue 1 derrière Paris. Mais deuxième à 19 points. Et si Marseille a fait un bon match hier, bien meilleur qu'à l'aller, Marseille s'est à peu près incliné sur le même score. 3 buts à 1, c'est un peu mieux que 3-0, mais la différence, elle est assez mince. L'écart était trop grand hier soir au Parc des Princes. L'écart est-il trop grand pour continuer à appeler les Paris-Marseille ou les Marseille-Paris des classiques? C'est en tout cas l'avis du coach marseillais Roberto De Zerbi.
Il livello del PSG.
Le niveau du PSG fait penser que nous avons fait une grande partie aujourd'hui. C'est vous qui appelez ce match le classique. Pour moi, il n'y a pas grand-chose de classique. Mais appelez-le comme vous voulez. Vous savez pourquoi? Parce que l'effectif et la puissance économique du Paris Saint-Germain ne sont pas comparables à ceux de Marseille. Mais je fais la guerre à tout le monde. Même si je sais que je suis en train de perdre la guerre, j'y vais à la tête contre le mur et je vais partout. Mais qu'est-ce que c'est que le classique? Le classique, c'est quand tu peux te battre. Tu prends un coup, tu en donnes un, tu le prends, tu redonnes. Mais comme ça, c'est frustrant.
Marc Libra, est-ce que vous êtes d'accord?
Il dévalue notre grande Ligue 1 avec ses propos.
Alors, Chérif, si vous le voulez bien, on a un classique, nous, dans ce studio. Donc, on a un PSG Sévrac contre un Marseille Libra. on va commencer par Marseille Libra, honneur au vaincu. Est-ce que vous êtes d'accord avec Bob De Zerbi sur la dévaluation du classique?
Non, mais ce qu'il nous raconte, il nous explique l'histoire, c'est factuel maintenant. C'est un manque de respect terrible pour les supporters. On a vu le tifo hier des supporters du PSG, ce qui était là justement la plus jolie chose. Après les banderoles, on va oublier ce qu'ils ont fait. Mais c'est manquer de respect pour tout le reste. Le classique, ça démarre dans les années 91 avec Denisot qui arrive, Tapie, enfin, on met ça en avant. Voilà. Alors, c'est une réalité, bien sûr, mais alors, dans ces cas-là, qu'on laisse jouer Paris tout seul et on va même pas, on envoie des gamins jouer. C'est ça qui est étrange. C'est que pour lui, il considère que quoi qu'il arrive, il n'y a pas de classique. Non, pas du tout, on ne peut pas se battre avec nos armes. Mais pourquoi on ne peut pas se battre avec nos armes ? Paris, cette année, qu'on le veuille ou non, avant le match de City, Paris, quelquefois, n'a pas perdu, mais a été un petit peu en danger. Certaines équipes les ont perturbées. C'est juste que son schéma de jeu, ce qu'il a mis en place, c'est nul. Ça ne sert à rien, quoi. Et il n'y arrive pas.
Donc là, il se trouve de fausses excuses.
Paris a joué à. Je pense hier, Paris a joué à 25%, ils ont mis 3 buts. Et s'ils accélèrent, ils en mettent 6. Et la différence avec Mendes, passeur décisif, pour Rabiot qui met en retrait, autrement, Marseille ne marque pas. Et il nous explique qu'on ne peut pas se battre avec ce schéma de jeu, ce qu'il a mis en place et les joueurs qu'il a mis en place, c'est sûr qu'on ne peut pas y arriver.
Pourtant, il avait essayé de pimenter ce classique Roberto de Zerbi, donc il n'est pas très cohérent. Il avait donné le brassard de capitaine à Adrien Rabiot, donc de retour au Parc des Princes. Lui, l'ancien enfant chéri, pas si chéri que ça d'ailleurs, du Parc des Princes et du PSG, Dominique Sévrac. C'est quoi votre avis, vous qui suivez les PSG Marseille, les OM PSG depuis des années? Est-ce que ça a encore une valeur, le classique? Ou bien est-ce qu'il se trouve des fausses excuses, comme le dit Marc Libra, Roberto De Zerbi?
Je suis plutôt de l'avis de Marc. Je pense que s'il avait gagné au Parc, il n'aurait pas dit ça, Roberto De Zerbi. Je pense qu'il a raison sur la différence économique, mais ça, ce n'est pas la faute du Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain a un actionnaire hyper puissant, qu'est le Qatar. Rien n'empêche Marseille de demander à M. McCourt ou à l'Arabie Saoudite ou à une puissance étrangère très très, 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 très fortunée de venir s'enquérir de Marseille. Ce n'est pas de la faute du PSG si l'Arabie Saoudite achète Newcastle et pas qui a gagné la Coupe de la Ligue et pas Marseille. Donc ça, c'est le Paris Saint-Germain n'y est pour rien. Après, comme l'a dit Marc, c'est quand même une valeur historique du championnat de France. C'est le match le plus cher. Vous savez que c'est découpé par lot, un appel d'offres. Dedans, on met un classico. On met le PSG-OM, comme on met en Allemagne Dortmund contre Bayern Munich. C'est le classiqueur. Voilà, c'est quelle que soit la différence économique entre les deux clubs, ça restera historiquement un match attendu par la France entière. On appelle ça le derby de la France. C'est des clichés. Après, il y a quand même, c'est toujours des belles audiences, c'est toujours un match attendu. Il se passe des choses en tribune plus ou moins intelligentes. Hier, c'était particulièrement bête. C'est une honte ce qui a été écrit sur Madame Rabiot. Je ne sais pas si on aura le temps, mais je préfère le dire tout de suite.
La maman donc d'Adrien Rabiot, bon, on peut faire une parenthèse, qui est aussi son agent et qui a été prise à partie de manière
avec son mari qui est décédé, qui était malade.
Des banderoles insultantes contre.
Je trouve ça scandaleux. Lyon vient d'être sanctionné pour avoir fait des banderoles anti-Labrune et anti-Nasser Al-Khelaïfi. J'espère que le Paris Saint-Germain sera sanctionné parce que c'est pas normal.
Véronique Rabiot, je crois, a déposé plainte.
Tout à fait. Elle a annoncé ça à France Inter qu'elle déposait plainte. Et j'espère que la commission de la Ligue fermera la tribune Auteuil partiellement, parce qu'on ne peut pas admettre ça. Moi, j'étais mal à l'aise hier dans le stade de voir des choses comme ça. Je ne viens pas dans un match de foot pour qu'on insulte des gens et qu'on fasse des attaques sexistes et sur des gens qui sont morts.
Alors, loin de moi de vouloir défendre les supporters de Paris et leur banderole, Chérif Guémour, mais est-ce que ça ne répond pas un petit peu par la négative à la question que pose Roberto De Zerbi? C'est-à-dire que si les supporters se mettent dans de tels états par rapport au retour d'un joueur parisien sous le maillot, enfin anciennement parisien sous le maillot de l'OM, ça veut dire qu'il y a quand même encore quelque chose autour de ce classique. Il y a encore une rivalité, en tout cas les supporters la poursuivent.
Oui, pour eux.
Ouais, c'est pour les supporters. Moi, je trouve que c'est une affiche qui est devenue factice. De la même, mais c'est pareil pour les autres championnats. Genre, quand on essaie de nous vendre un Manchester United Chelsea, ça avait du sens dans les années 2000. Mais
aujourd'hui, Real, c'est factice.
Ah non, ça c'est un vrai classique. Ah, ça. Ouais. Ah bah oui, non, ça c'est.
Atlético-Barça d'hier soir, enfin, c'est pas un classique, mais par contre, c'était mieux de regarder ça.
Mais c'est ce que je dis.
Oui, oui.
C'est ce que je dis. Il y a des classiques qui demeurent des classiques et il y en a, ils sont devenus factices. Donc voilà, c'est la réalité. Moi, je l'ai regardé d'un œil. Je peux même dire que j'ai coupé le son. Je m'attendais pas à, quand ça s'appelle, un miracle de la part de Marseille. Ensuite, je comprends la déception de Marc, hein, de quand. Je sais pas ce qu'on a abordé de la meilleure des façons. Tu as raison, il y a des clubs qui ont vraiment taquiné Paris. Mmh. Je pense à Lens, par exemple.
Nice, Lille, ils sont pas écroulés.
Ces dernières semaines, c'est-à-dire que c'est pas pour défendre les Marseillais,
depuis City, ouais,
c'est vraiment
City,
compliqué de prendre Paris en ce moment. Même Liverpool a pas.
Je trouve sévère avec le plan de jeu de Zerbi. Je trouve qu'ils ont pressé haut. Je trouve que le premier but, c'est un dégagement long de Donnarumma sur la déviation de la tête de Kvaratskhelia pour Fabien Ruiz, qui lance en profondeur. Ousmane Dembélé, c'est-à-dire qu'en 3 passes 10 secondes, ils ont marqué le premier but. On est à la 17e minute. Le troisième but, c'est une passe longue de Lucas Beraldo pour Hakimi qui sent but contre son camp de Lirola. Il y a que le deuxième but qui a intervient au bout d'une possession d'une minute trente avec Hakimi qui fait une passe fantastique pour Fabien Ruiz qui trouve Nuno Mendes. D'accord. Ça, c'est vraiment style Luis Enrique. Ouais. Mais reconnaissez qu'on n'a pas forcément vu le PSG.
Ils ont joué à 20%.
Ah, ça, c'est vrai.
Ils ont pas forcé.
Ils avaient laissé beaucoup d'énergie à Anfield.
Deuxièmement, c'est quand même un PSG à prime, je dirais. Je dirais pas B parce que c'est méprisant. Et troisièmement,
trois changements par rapport à Anfield.
Et Marseille ne joue qu'un match par semaine, voire un match tous les 10 jours.
C'est ça.
Donc, comment dire, on a vu que quand on a des bons temps de récupération, comme a pu en avoir Paris, les gars livrent tout en 2 matchs contre Liverpool. J'ai pas vu la même intensité du côté marseillais.
Et c'était possible, l'une des rares. Shérif.
Attends, c'était l'une des rares satisfactions quand je voyais Marseille. Moi, j'étais jamais été emballé par Marseille, mais je me dis au moins on a ramené de l'énergie.
C'est pas possible
les gars se dépouillent.
Ce que Paris a fait à Anfield, même Liverpool a cédé face au PSG. Même si Marseille avait mis une intensité folle, mais ils n'arriveraient jamais vraiment à bousculer
Marseille. Ne joue qu'un match par semaine.
Peut-être un dernier mot sur la prestation marseillaise hier, Marc Libra, puis après on revient sur le PSG, Marc.
Ce qu'on aurait voulu voir, c'est plus d'intensité, plus d'envie. C'était relativement sur le terrain correct, réglo. Voilà, Marseille doit pouvoir, avec ce qui s'est passé, on met Marquinhos, on le fait souffler, alors qu'il est capitaine emblématique, est un joueur important, on fait souffler. Oui, il n'y avait que 3 changements, mais en fait, Paris, pour moi, mais ils ont joué. Et quand ils ont voulu accélérer, ils ont accéléré. Et heureusement qu'ils n'accélèrent pas, parce que autrement, ils peuvent en mettre 3 de plus. Mais donc, vraiment. Donc, au match aller, ils avaient. Rappelez-vous, au match aller, une mi-temps, ils éteignent le stade. 35 minutes, on joue plus.
Ah, on se contrôle, ça.
Ah ouais, non, mais 35 minutes, on est d'accord. Okay. Là, ils ont dit, bon, on va jouer 10 minutes, on va jouer 5 minutes. Et puis, le process de Marseille de jouer très haut avec des mecs qui vont très vite, là, De Zerbi, il faudra qu'il m'explique. Parce que les mecs, les ont pris dans le dos avec une passe où on passe les milieux et les défenseurs. Ben, tout va bien.
Bon, ouais. Voilà, une pierre dans le jardin de Roberto De Zerbi, lancée par Marc Libra. La marge du PSG, on y revient. Alors d'abord, il faut préciser que Paris peut être champion très bientôt. Dès la prochaine journée.
La semaine prochaine.
Alors, c'est pas la semaine prochaine techniquement, parce qu'il y a une trêve internationale.
Le prochain match.
Donc on fait durer un peu le suspense, mais prochaine journée, Paris peut être champion, c'est très précoce. Ce match, ce classique d'hier contre Marseille, a-t-il confirmé ce que beaucoup pensent depuis l'élimination de Liverpool en 8e de la Ligue des Champions, à savoir que le PSG est peut-être la meilleure équipe d'Europe aujourd'hui. Avant vos avis, messieurs, dans le studio de Radio Foot, ça grogne déjà.
Arrêtez.
L'avis de Désiré Doué, qui lui au moins joue au foot avec le maillot du PSG. Alors, peut-être pas très objectif, mais en tout cas, il est dans le cœur du réacteur.
Je suis très très content d'abord pour l'équipe, pour tout ce qu'on fait au quotidien, parce que c'est le résultat du travail qu'on fait au quotidien. Le coach aussi, faut le remercier parce qu'il nous donne les bons conseils, les bonnes tactiques. On a encore été très sérieux, on ramène les 3 points. C'était un derby qu'il fallait gagner, on est très content. On essaye de tous se mettre au service du collectif, on court les uns pour les autres, on presse beaucoup et voilà, on essaye de jouer notre football et ça nous réussit, c'est top.
Et le pari est raté. Désiré Doué ne nous dit rien. Il nous fait un bon cours de langue de bois, mais au moins là-dessus, contrat rempli pour le jeune attaquant parisien. Paris, vous êtes peut-être celui qui est le plus à même de répondre, pas par la positive, mais presque à cette question. Paris est-il la meilleure équipe d'Europe aujourd'hui? Le PSG est-il la meilleure équipe d'Europe aujourd'hui, Dominique?
Déjà, j'en sais rien. Mais si je dois donner mon avis, je dirais qu'avec l'Inter de Milan, c'est l'équipe qui me fait la meilleure impression en 2025.
Il n'y a pas que. Oui, c'est bien.
C'est l'équipe qui me fait la meilleure impression, c'est-à-dire en termes de est-ce que l'effectif est complet, est-ce que le jeu est abouti, est-ce que le banc est intéressant. Je trouve que voilà, les deux équipes sont les plus complètes, dans le sens où, par exemple, Barcelone, qui est fantastique, a des fragilités, notamment défensives, dans le sens où le Bayern Munich me semble prenable parfois aussi derrière, et dans le sens où Dortmund, je prends ceux qui restent en Ligue des Champions, Dortmund pour moi est dans la catégorie vraiment en dessous, le Real Madrid, je comprends toujours pas qu'ils soient encore là, pour m'expliquer où sont les touches d'Alvarez pour son pénalty, puis même d'une manière générale, c'est pas une équipe très solide, même devant, ils ont quatre joueurs fantastiques, mais ils s'entendent pas entre eux, notamment Vinicius et Mbappé. On l'a vu contre Madrid. Qu'est-ce qui nous reste encore? Il nous reste Arsenal. Arsenal est décimé en ce moment, donc c'est compliqué. C'était une très bonne équipe, mais
ils vont récupérer Saka. Hein.
Vous me dites pas oui, mais vous me dites. Peut-être.
Bah, je vous dis oui avec l'Inter de Milan.
Ok. Je rajoute. C'est pas mal. C'est beaucoup mieux que les saisons précédentes.
Je rajoute quand même Barcelone dans le lot. Parce qu'aujourd'hui, Barcelone, il faut quand même les prendre au sérieux. Et le Bayern, il faut aussi les prendre au sérieux.
Mais en tout cas, est-ce que vous voyez un pari qui confirme, après le match d'hier, que là, vraiment, il y a quelque chose. Il y a quelque chose qui peut se faire.
Paris confirme depuis ce match de City. C'est passé quelque chose, qu'on le veuille ou non. Aujourd'hui, on ne parle plus de tel joueur ou tel joueur. Aujourd'hui, c'est un collectif. Et le banc, pour moi, est encore plus important. On l'a vu, le banc est plus important. C'est peut-être la première fois qu'on a un banc aussi important qui coopère, enfin qui travaille avec tout le monde. Doué rentré à Liverpool, il peut faire basculer le match, le gamin. Hein. Et les mecs qui rentrent, ils sont à chaque fois à 200%. Ce qui veut dire que les mecs aujourd'hui, il n'y a plus forcément de grandes stars. Et tu sais qu'à tout moment, tu peux rentrer, tu dois aider l'équipe. Et ça, quand le violon, ça fait très longtemps.
Ça, c'est un processus. Hein. Il a fallu pour arriver là. Des mois de patience avec Luis Enrique.
Un an et demi. Où tu sors des mecs. Ouais. Tu sors des mecs.
J'ai entendu dire que Luis Enrique était dans le faux, que cette rotation était annonçante.
Tout le monde l'a dit.
Qu'il faut avoir une équipe type. Ah non, moi, je trouvais ça génial. Je ne vais pas faire le mec qui savait tout avant. Mais
moi,
j'ai dit depuis le départ que Luis Enrique était dans le vrai et qu'il fallait être patient. Je ne savais pas si ça allait marcher un jour. Mais moi, cette méthode-là.
Sheriff Gamour, ça s'est encore vu hier. Hier, on peut faire des changements et tout va bien.
Donc, je plus sois par rapport à ce que vient de dire Dominique. C'est une progression méthodique, le bon travail de Luis Enrique. Rappelle-toi aussi, on disait qu'il ne fait pas progresser les joueurs, mon œil.
Certains, il a fait, comme Doué.
Ouais.
Ah bah là, la force collective, maintenant, il y a
quelque chose qui est solidement établi, c'est la force collective. De la première à la dernière minute, c'est une équipe qui presse, ils pressent tous ensemble et ils pressent intelligemment. Ok, il y a une débauche d'énergie, mais c'est une débauche d'énergie qui est bien rationalisée. C'est la première chose. Deuxième chose, phénomène Dembélé qui ne faiblit pas. On se posait les questions. Est-ce que c'est juste une éclipse d'hiver qui va s'éteindre? Non, il en a encore planté deux hier. Alors je veux bien, oui, c'est facile, il n'y a qu'à la pousser. Non, faut être là, faut la mettre au fond. Donc, la force collective plus le phénomène Dembélé, parce que je suis désolé, c'est quand même eux qui les emmènent. C'est le joueur à suivre. Ça en fait une menace. Je pense qu'aujourd'hui, personne n'a envie de tomber contre le PSG. Maintenant, est-ce que c'est le meilleur club dans les grandes lignes? Oui, mais alors deux bémols. Le premier, je suis entièrement d'accord avec Dominique, on ne parle jamais de l'Inter, mais on n'en parle jamais. On parle toujours du Real, du Bayern, on ne parle jamais de l'Inter. Petit exemple, on cite souvent Hakimi, le meilleur latéral droit du monde.
Non,
moi, je dis, il y a aussi Dumfries, mais Dumfries, on n'en parle jamais. Et la deuxième chose, n'oubliez pas que l'année dernière, le PSG était favori en demi-finale contre Dortmund et c'est pas passé, mais du tout. Donc voilà, il y a encore des bémols. Mais
il y a encore pas mal de débats dans Radio Foot.
Personne ne veut tomber sur eux.
Rapidement, Marc.
Non, mais la question que je me pose, c'est si Donnarumma fait pas deux arrêts et que Liverpool passe, est-ce qu'on parle pareil? Non.
Ah, quand même.
Bon, ça, c'est un peu l'histoire.
Ah, t'aurais parlé pareil? T'aurais dit que je pense que certains auraient tapé dans l'entraîneur.
C'est un peu l'histoire du football.
Je suis d'accord avec toi.
Ah non, mais c'est pas l'histoire du football.
Donnarumma,
il y a toujours des effets de.
Pour valider ce que fait Enrique depuis un an et demi, il doit gagner avec des champions. Il doit aller au bout. Parce que l'année dernière, il se fait sortir contre qui? Rappelez-vous, Dortmund.
Mais ça fera partie de l'apprentissage, Marc. Ils vont peut-être pas la gagner cette année.
Ah, bah non.
Mais peut-être que les prochaines, ils la gagneront.
Allez, le train, il passe qu'une fois ou deux.
Non, mais c'est la Ligue des Champions. Hein. C'est ce qu'il y a de plus dur au monde.
Marc Libra, oui. Dominique, c'est vrai. Chérif,
on aurait peut-être dû la gagner à une époque avec des Maxwell, avec des joueurs il y a plus de 10 ans déjà. Et on l'a pas fait.
Et l'OM aurait-il gagné sa Ligue des Champions sans les arrêts de Barthez en finale? Voyez, on a toujours besoin d'un bon gardien. Nos auditeurs, que pensent-ils de Paris? Pensent-ils que le PSG va tout prendre en cette fin de saison, y compris la Ligue des Champions? Ce sont les messages du lundi.
Bonsoir RFI, moi c'est Franck depuis la Côte d'Ivoire, bravo au PSG, car c'est la meilleure équipe au monde actuellement. Oui, Luis Enrique procure du beau jeu, il donne du bonheur aux supporters du Paris Saint-Germain. Ici c'est Paris, Paris est magique.
Salut, je suis Nouditebaï Arche de Théodore de N'Djamena au Tchad. Je pense qu'à ce niveau, on ne peut pas encore dire que le PSG est la meilleure équipe d'Europe. Le PSG est l'une des meilleures équipes d'Europe. Le PSG a encore du chemin à faire en Champions League.
Bonjour la Radio du Monde, c'est Koulibaya Claude depuis le Congo Brazzaville, précisément à la ville océan de Pointe-Noire. Je pense que le Paris Saint-Germain est l'un des meilleurs clubs du monde en ce moment, avec des joueurs extraordinaires comme Ousmane Dembélé, comme Vitinha, comme Fabien Ruiz, avec l'entraîneur qui transforme cette équipe. Je pense que le Paris Saint-Germain va faire une saison incroyable.
Bonjour Hugo, bonjour Radio Foot, c'est Diallo des Pays-Bas au Sénégal. Le Paris Saint-Germain est actuellement le meilleur club du monde. Je ne les souhaite de remporter la Ligue des Champions pour son première fois. Et il faut le croire, ça va venir, Inch'Allah, ça va venir remporter la Ligue. La Ligue 1, c'est déjà arrivé. Bonne chance à tous et je promets que la finale sera Paris Saint-Germain et le Barça.
Les messages du lundi, vous avez du talent et des avis, vous nous les donnez, une note WhatsApp, une note vocale sur WhatsApp, le numéro sur notre page Facebook. On a parlé de Paris, on revient à l'OM. Est-ce qu'il y a le feu au lac? Vous en parliez, Marc Libra, tout à l'heure. Plus que 2 points d'avance sur le 3e et le 4e au classement du championnat de France, à savoir Monaco et Nice dans cet ordre. Est-ce que faut commencer à se méfier?
Et ils vont se rencontrer aussi.
Mais alors
et
justement, est-ce que ça veut dire qu'il y a danger?
Ah, mais il y a danger quand on voit les 4 derniers matchs, c'est 3 défaites de l'OM. Heureusement que Nice a un petit peu laissé passer des points, que Lille a perdu. Faut pas oublier qu'il y a Strasbourg qui est dans la charrette et Lyon qui reviennent tranquillement.
Monaco,
oui, mais il y a Strasbourg aussi qui est à 6 points de l'Olympique de Marseille.
Super saison de Strasbourg.
Et super, ouais. Et on n'en parle pas avec un attaquant de Foden, on n'en parle pas. Donc, je pense que De Zerbi a intérêt de finir à la 2e place parce que c'est vrai que depuis de nombreux mois, Marseille est second. Marseille aurait pu faire la différence certaines fois, ils ne l'ont pas fait.
C'est grave si tu finis 3e vu que
Non mais ce qu'il faut c'est que tu fasses une Ligue des Champions.
Voilà, c'est
avec
ça,
les investissements que tu as fait.
Non, mais quand je vous demande s'il y a danger, je vous demande s'il y a danger pour la Ligue des Champions.
Bien sûr,
oui,
bien sûr qu'il y a danger.
Il reste 8 matchs.
Dominique n'est pas d'accord.
Finir dans les 4?
Non, dans les 3 déjà, dans les 3.
La 4e place est aussi qualificative.
Alors, il faut passer par des qualifications.
Elle est
comme Lille.
Qui démarre au mois de juillet à jouer.
En général, Dominique, en général, les clubs français ne passent pas les barrages. En général, Lille est passé, on est d'accord. Donc, c'est pas évident.
Disons les 3.
Il suffit 15 matchs.
Les 3.
Disons les 3.
Donc, est-ce qu'il y a danger? Pour moi, oui.
Marseille a été dauphin quasiment toutes les journées. Je dirais que ça me paraît improbable qu'ils sortent du podium.
Sauf que là, ils sont en stand-by. En revanche, et les autres équipes.
Du 3e, l'identité du 2-3, je ne peux pas vous le dire. Est-ce que ça sera Monaco-Marseille, Marseille et 3e Lyon? Est-ce que ça sera...
Justement, donc je vais redire un peu ce qui a été dit sur la course à la Ligue des Champions. Donc Monaco-Nice, 3e et 4e dans cet ordre. Lyon, 5e, voilà. Qui revient bien. Qui est un peu le challenger de ce sprint final qui est clairement la chose la plus intéressante en France sur cette fin de saison, savoir la composition du top 4, en tout cas des 3 derrière le PSG. Et puis il y a la chute de Lille, on parlait justement de ces équipes qui passent par des tours de qualification et qui se retrouvent avec beaucoup de matchs joués au mois de mars. Défaite contre Nantes ce week-end, après l'élimination un peu triste en Ligue des Champions contre Dortmund, le LOSC désormais 6e à 3 points. Vous la voyez comment cette course pour la Ligue des Champions? On a
vu que tous ceux qui ont perdu cette semaine en Ligue des Champions ont eu du mal. L'Atlético de Madrid a eu du mal, Lille a eu du mal, Liverpool a eu du mal.
On en parle dans un instant.
Voilà, donc ça c'est, on va voir. C'est peut-être que cette semaine. On va voir si ils vont pas se refaire la cerise, parce que moi je trouve que Lille a fait une saison fantastique. Ils ont Zegrova.
Est-ce que là ils sont en train de dire adieu?
Zegrova va revenir au bout d'un moment. Donc pour moi c'est un joueur qui est au-dessus de la Ligue 1. Donc, j'enterre pas du tout Lille.
Nice, ils sont en train de tomber.
Nice, même leur actionnaire dit que c'est nul. Alors, ça veut dire que je pense
il connaît rien. Il connaît rien.
Oui, mais bon, c'est quand même...
Qui est aussi l'actionnaire de Manchester United et qui est un peu en roue libre sur à peu près tous les tableaux.
Lui qui
a brillé en cyclisme, si je puis me permettre.
C'est surtout le nouveau stade de Manchester United à 700 milliards de livres qui l'intéresse.
Ouais. Oui, donc voilà, il a eu des déclarations, même du côté de l'Angleterre.
Non, j'ai envie de vous dire que ça va jouer des confrontations directes.
Et Lyon va remonter?
Il y a la Ligue Europa, c'est-à-dire qu'ils vont jouer sur deux tableaux. Alors, ils ont un bel effectif. On voit que Mikotadze, par exemple, a fait un match fantastique contre Le Havre. Il a sauvé, ils étaient menés 2-1.
Ça a toujours été dur pour un championnat, mais il passe à Lyon.
Je les vois plus faire quelque chose en Europa League que finir dans les 4 premiers.
En tout cas, on est d'accord pour dire que c'est ça le feuilleton de la fin de saison.
Ah, complètement.
Depuis décembre, ils sont encore. Marseille a eu jusqu'à 7 ou 8 points d'avance, il me semblait, à une époque, il me semble.
Bon, bah écoutez, on va suivre ça tranquillement dans Radio Foot et on ressortira les bandes pour savoir si vraiment Chérif Guémot et Dominique Sévrac ont défendu Luis Enrique depuis le début. Musique dans Radio Foot sur RFI.
Sans problème.
70 de Sakito. Je cite Laurent Salerno, un style un peu Cuba. Et d'ailleurs, c'est l'inverse. Donc, je me moque de Laurent Salerno, mais c'est Sakito qui chante 70, c'est ça? Ou c'est l'inverse? On va y arriver. C'est 70 qui chante Sakito. Ça ne s'invente pas une séquence,
moi, compris, ouais.
Une séquence comme celle-ci. Ça nous a quand même permis, cette pause musicale bienvenue, de vérifier que Chérif Guémot avait bien soutenu Luis Enrique depuis plusieurs mois.
Ah ouais, d'accord.
Il pièce à conviction numéro 1, c'était quoi, un tweet qui date de
14 septembre.
14 septembre dernier.
Un pôle match, soi-disant pôle match contre Angers, c'est facile, 3.
Donc Chérif Guémot avait bien soutenu Luis Enrique dès le début de saison.
Okay. Il faut ressortir les blazes. Okay.
Ça veut surtout dire qu'il faut écouter Radio Foot sur RFI pour les bonnes analyses. The latest one from Kieran Trippier on the left. Looking for Byrne again. Oh, Dan Byrne! Pour venir ouvrir le score cette fois-ci! Hanging in the air, Murphy, Issa! C'est en fond de la part de l'international suédois. La défense de Liverpool est complètement presse! It's Newcastle United's day. Newcastle rentre dans l'histoire du football anglais pour mettre fin à une dizaine de 70 ans! Newcastle United win at Wembley. Tout sourit en ce moment à Paris, on en parlait en début d'émission, du côté de Liverpool. En revanche, on pleure deux échecs de suite pour les Reds en quelques jours à peine. L'élimination face au PSG, donc en Ligue des Champions, et la défaite ce week-end en finale de la League Cup contre Newcastle, a priori pour la Première Ligue. Ça devrait le faire, comme on dit, pour Liverpool. Et c'est plutôt un très joli lot de consolation. Mais la saison promettait d'être beaucoup plus belle que ça. Terrible série pour les Reds, donc, et pour leur entraîneur, Arne Slot.
Le résultat, la performance, tout ça est très décevant. Mais c'est un sentiment très différent de celui après la défaite contre le Paris Saint-Germain. Perdre deux fois d'affilée, c'est la première fois que ça nous arrive. Mais la probabilité augmente quand on avance dans les compétitions. On rencontre des équipes excellentes comme le PSG et Newcastle. Deux très bonnes équipes, chacune dans son style. On connaissait déjà bien Newcastle, c'est vraiment compliqué de les battre. C'était une semaine très difficile. Mais bon, on va retenir qu'on a augmenté notre avance à 12 points en championnat. Where we extended
our lead to 12 points. Ils n'ont pas un peu, pas tout gâché, mais gâché beaucoup de choses en quelques jours, et notamment ce week-end, les Reds de Liverpool, Dominique Sévrac.
Alors déjà, il y a un problème, c'est quand est-ce qu'il faut être prêt quand on est une grande équipe. C'est-à-dire, par exemple, on a parlé du PSG juste avant. Le PSG, en première partie de saison, ils étaient encore à l'époque des réglages. Dembélé n'avait pas cette puissance, il ne jouait pas dans le même poste. On cherchait un neuf, on disait tout le monde se croyait orphelin de Kylian Mbappé. Et puis vous voyez que maintenant, le PSG, là, ils sont là et vous êtes à me poser la question, et que c'est la meilleure équipe d'Europe. Liverpool, ils ont marché sur l'Europe, ils ont marché sur la Première Ligue. Ils ont perdu une fois en septembre contre Nottingham Forest et puis une fois en cup avec une équipe vraiment B. Ouais. Et donc là, ils arrivent contre Paris et ils n'ont vraiment pas de chance. Ils ont dominé la nouvelle formule, ils ont fini premier. Ils tombent contre un barragiste et ils auraient pu tomber, je ne sais pas, le Cercle Bruges, hein, contre le Cercle Bruges. Mais ils tombent sur le Paris Saint-Germain, qui vraiment faut pas prendre en ce moment. Et donc, ils se font éliminer au cours d'un combat. Mais donc, j'étais en field, c'était incroyable, un match d'une folie
totale. Ils ont pas pris 4-0.
Ça va en prolongation. Et tout le monde a puisé dans sa ressource mentale. Et là, vous avez une Coupe de la Ligue, une finale à Wembley. Et il n'y avait plus rien, en fait. Moi, j'ai regardé le match, il n'y avait plus rien dans les chaussettes. Mentalement, ils n'étaient pas là. Mohamed Salah est passé complètement à côté de son match. C'était, donc, quand est-ce qu'il faut être prêt, en fait? Il faut être nul en première partie de saison, entre guillemets, pour se réserver pour la deuxième. Mais si vous êtes nul, comment vous allez devenir bon? Ah, c'est très compliqué pour eux. Donc voilà, ils ont la Première Ligue. C'est, quand vous dites, c'est pas un lot de consolation. C'est fantastique d'être champion d'Angleterre. Et puis, bon, ils se sont fait éliminer contre, en huitième de finale. Ça peut arriver. Et puis là, ils ont perdu une finale où, parce que je pense qu'ils étaient rincés mentalement et physiquement.
Chérif Guémot, il faut rappeler ce que représente la Première Ligue pour Liverpool. Longtemps, le club le plus titré du championnat d'Angleterre, dépassé par Manchester United, qui ne gagnait plus Liverpool, la Première Ligue, c'est-à-dire depuis le début des années 90. Ah ouais. Retour au sommet en 2020 seulement. Ce serait seulement la deuxième Première Ligue de Liverpool. Donc,
Et encore, ils ne l'ont pas fait avec les supporters. C'est très, très important.
Oui, parce que c'était le Covid.
C'était le Covid. Donc voilà, on connaît à Liverpool l'attachement qu'il y a du public pour son club. Et réciproquement, ils ne l'ont pas fêté. Moi, je pense que ça a été, entre autres, une des causes lointaines de la démission, enfin le départ de Klopp, parce que c'est très régénérant ces festivités. Je suis d'accord avec Dominique, ça fait un bout de temps que cette équipe de Liverpool est partie. D'abord, elle est partie sur les chapeaux de roue. En effet, ils ont marché.
Ils ont marché sur le championnat, ils ont marché sur cette Ligue des Champions. On va rappeler quand même qu'hier, ils perdent que 2-1 après un combat épique, comme le rappelait Dominique. Ils n'ont pas pris 4-0 hein, contre le PSG. Ils perdent au tir au but. Hein. Mais comment dire,
mais le football est un peu cruel.
Il y a la fatigue et la lassitude. Et je pense qu'il y a le miroir déformant de la Première Ligue, comme on en parlait la semaine dernière. Je pense qu'aujourd'hui, le top 4, les 4 meilleures équipes, le top 4 du championnat d'Espagne est pour moi plus fort que le championnat d'Angleterre. Parce que les grosses équipes anglaises, finalement, elles ne sont pas tellement au rendez-vous, d'où Nottingham Forest, Newcastle qui est pas loin. Donc il y a un peu le miroir déformant.
La faillite de City cette saison.
Voilà, c'est ça, la faillite de City, l'écroulement. Enfin, Chelsea revient bien, mais c'est pas...
Non, mais là, en Ligue des Champions, il y a quand même combien de clubs? En Ligue Europa, il y a combien de clubs qui sont là?
Moi, je parle du championnat. Les grosses valeurs sont,
C'est-à-dire que Manchester City, quand même, n'est pas la meilleure équipe d'Europe cette année.
Nottingham Forest, quand même.
La caution british de Radio Foot, c'est évidemment Marc Libra.
Of course, my friend.
Of course, Norwich.
We can talk in English if you want.
Le club en Écosse, dites-le moi s'il vous plaît, dans lequel vous êtes.
Ebanian.
Effectivement. Donc vous connaissez part le foot british mieux que quiconque ici. Il faut pas être trop dur avec Liverpool.
Il y a une erreur, c'est Slot.
Ah pourquoi? Ouais.
Ben parce que Slot, il a pas su gérer. Il arrive, il prend la place et il fait quelque chose d'exceptionnel. Ce mini championnat, c'est exceptionnel. Il a pas su gérer, qu'on le veuille ou non, ce Boxing Day et cette période où, comme le dit Dominique, ton effectif, tu dois le régénérer. Ton effectif, il est mort et t'as plus rien. Il n'y a plus rien. Quand tu vois Salah, on était tous à dire depuis septembre, octobre, novembre, décembre, Salah, mais c'est le meilleur joueur du monde. Salah, sur 2-3 matchs, les 2-3 derniers matchs, les deux confrontations PSG, il est inexistant. On l'a vu à Anfield, 5 minutes 50 après, il a disparu. Mendes l'a éteint. Mais il n'y a plus d'essence, il n'y a plus rien. Et malheureusement, je pense que Slot, avec sa préparation, alors il va apprendre, mais je pense qu'il y a manqué des choses. Parce que Chérif l'a dit aussi, mes deux camarades l'ont dit, ils ont marché sur tout le monde. Mais en fait, à un moment donné, il faut que, tu sais quoi, ben peut-être qu'il faut être un petit peu moins bon, un petit peu moins fort, et les temps de passage, là, malheureusement, j'ai l'impression que, vous savez, c'est comme un turbo, vous donnez tout. Puis quand vous arrivez au bout, ben, c'est le lièvre et la tortue. Et je pense qu'aujourd'hui, parce que pour eux, il y a la presse anglaise, je lis un petit peu la presse anglaise, annoncer le triplé, il est là, hein. Le triplé. Bah, quand ils prennent Paris, quand ils tirent Paris, ils sont tous contents. Le problème, mais c'est que Paris, d'un coup, il y a City.
Même en France, on dit que Paris n'est pas favori du tout.
Mais absolument. Mais Paris n'avait pas montré City. Enfin, ils avaient battu City, mais c'est un coup de chance, ils sont passés. Et à l'arrivée, je pense que le manque de moteur, Slot n'a pas su gérer avec son équipe physique les joueurs.
Vous parliez de Mo Salah, 32 buts, 22 passes décisives cette saison pour l'Égyptien. Il était intenable encore début mars. Et là,
non, pas début mars.
Il a disparu, mais il continue à marquer début mars.
Troisième meilleur buteur européen.
Et là, on a l'impression qu'en deux matchs contre le PSG, en une finale, sous son crédit, c'est
pas la débandade. La fin du Boxing Day, ils perdent pas. Ils font des matchs nuls. Je suis d'accord avec toi. Il y avait déjà une baisse de régime. Une fois de plus, contre le PSG, ils perdent pas 4-0. Et là, ils perdent 2-1 hier dans le prolongement de
cette
semaine. Moi, ce que j'ai vu, je vais être d'accord avec toi pour Arne Slot. Moi, j'ai vu un entraîneur paumé au match retour. Ça se voyait dans son regard, au niveau du le langage corporel, au niveau de
l'attitude, la gestuelle,
Gestuelle, le regard. Et c'était pareil avec les gars qui étaient derrière lui sur le banc et les supporters. À chaque fois qu'il y avait des gros plans, tout le monde était inquiet. Vraisemblablement, ils se sont pris 30 tonnes sur la tête au match aller. Même s'ils ont gagné, ils savaient très bien que c'était un hold-up. Ils sont passés. Et au match retour, ils ont été incapables de réagir. Ils ont eu le gros temps fort de la deuxième mi-temps parce que c'est Liverpool, ils sont à Anfield.
Parce que Paris a un petit peu baissé le pied, voilà, physiquement, à l'heure de jeu, c'est normal.
Par contre, aux prolongations, c'est Paris qui remange Liverpool et qui finit très fort.
Chérif, comme Dominique revient de Liverpool, et dans sa tête, il ne quittera jamais Anfield parce qu'on ne quitte pas Anfield comme ça. Vous êtes un peu d'accord avec...
Je ne marcherai plus jamais seul, non.
Exactement. Vous êtes un peu d'accord avec les impressions de vos camarades.
On parlait de tout à l'heure, on parlait du banc du Paris Saint-Germain, des trois changements contre Marseille. Là, il y a trois changements aussi. Il a changé le gardien, ce n'était pas Alisson.
Ouais.
Il a changé les deux latéraux. Et après, c'est Federico Chiesa qui rentre et qui marque. Mais il a très, très peu de banc, Arne Slot. Il a très peu de banc. Ça n'a rien à voir.
Ils ont toujours joué.
Quand Paris fait rentrer Doué, fait rentrer Zaïre Emery, fait rentrer Beraldo, fait rentrer Gonzalo Ramos, c'est des vrais plus-values. Là, le banc de Liverpool, je suis surpris. qu'un club comme Liverpool ait un banc aussi faible, en fait.
Il n'a jamais fait tourner. Et en plus, ça, là, il finit tous les matchs, la plupart du temps.
Un dernier mot, parce que là, on parle du vaincu, mais le vainqueur, premier titre depuis
70 ans,
1965, pour Newcastle, racheté il y a peu par l'Arabie Saoudite, un club qui avait, dans le cadre de ce rachat, retrouvé la Ligue des Champions la saison passée.
Ils n'ont pas fait de folie, encore.
Avec une belle claque pour le PSG au passage. Ouais. Ça valide le projet saoudien Newcastle ?
Mais Newcastle montait déjà en puissance avant l'arrivée des Saoudiens, rappelez-vous. Ils jouaient les Coupes d'Europe. En plus, ils n'ont pas fait de folie. Ils ont
c'est une anomalie, globalement, pas de titre en 70 ans pour un club.
Ils n'ont pas fait des folies il y a quelques mois, quand même.
Il y a 32 clubs anglais qui ont gagné quelque chose dans 70 ans. Il n'y a pas jamais eu Newcastle. 32 clubs différents ont gagné un titre.
Vous êtes d'accord, Marc Libra, Newcastle, c'est quelque chose d'important là, dans le paysage du football britannique anglais.
Ils ont un super attaquant. Ils ont un super attaquant qui va valoir très très cher l'été prochain.
Isaac.
Ouais. Ils ont quand même des pépites. Hein.
Ils sont sixième du championnat.
Laurent Salerno insiste pour qu'on parle de Sandro Tonali.
Ah bah, il a raison.
L'Italien.
Il a raison.
Absolument.
Il est bon. Merci, Laurent.
Il est moins bon pour faire des paris, mais il est très bon sur le terrain. Donc il reste sur le terrain.
Il a été suspendu.
Dès sa fin de suspension, il est arrivé titulaire, il a tout vu
contre la France au Parc des Princes. Il sortait de sa suspension, on se dit le gars n'a pas joué depuis 8 mois, il va avoir du mal. C'est lui qui marque. Ouais, il était fantastique, quoi. Sandro Tonali, c'est fantastique.
Eh bien, bravo Sandro Tonali, bravo Newcastle pour ce titre en League Cup. On parlait de gros sous, de ventes, d'achats. Et bien justement, en cette fin d'émission, je vais changer de rôle. Je vais passer de présentateur à commissaire priseur.
Ah.
52 000 euros, c'est là, je trouve vous au téléphone. À 52 000 euros, 52. C'est facile, vu. Fini. Adjugé, 52 000 euros l'enchère ici.
Oui, les 52 000 euros, vous serez gentil de me les verser assez rapidement, messieurs. Bon, en fait, c'est pas moi qui parlais. Ce week-end avait lieu une vente aux enchères assez extraordinaire. À Paris, de nombreux maillots et accessoires marquants de l'histoire du football français, des Jeux Olympiques 84 à la Coupe du Monde 2022, en passant par la Coupe du Monde 98 ou l'Euro 2000, ça fait pas mal de jolies reliques, les plus belles heures du foot français mises à l'honneur, le temps d'une vente aux enchères. Matisse Landé tout court, bonjour.
Bonjour Hugo, bonjour
et
à tous.
Et bienvenue dans Radio Foot. Vous étiez, dans le cœur de Paris pour cette vente exceptionnelle.
Effectivement, des maillots, fanions, ballons, places ou même accréditations. La salle d'enchères de la maison Milon était pleine samedi pour observer ces bouts d'histoire de l'équipe de France. La plupart des 200 lots proposés étaient issus de la collection Frédéric Émile, le fils d'Henri Émile, ancien intendant des Bleus pendant 22 ans. Et la vente a rapporté très gros. Selon le journal L'Équipe, le total des ventes est estimé à 730 000 euros, frais compris. Guillaume, que j'ai croisé à la sortie de la salle de vente, vous explique pourquoi les enchères étaient si élevées.
Moi, je collectionne depuis 2016, donc ça fait 9 ans que je collectionne les maillots de l'équipe de France. On est près d'une centaine des maillots de la Coupe du Monde 98, dont un porté par Lisa Razou contre l'Arabie Saoudite. Et c'est vrai qu'aujourd'hui les prix sont beaucoup plus élevés que d'habitude, et je pense que c'est l'effet collection Henri-Émile, qui est un personnage emblématique de l'histoire de l'équipe de France. Et c'est une collection qui est chargée d'histoire et qui donne envie peut-être aux personnes de payer plus cher que les prix habituels, parce que c'est un gage, une garantie d'authenticité et de certitude.
Le point d'orgue de la vente, le lot numéro 86, un maillot de Zinedine Zidane préparé mais non porté lors de la finale de la Coupe du Monde 98.
Et alors, combien pour cette pièce, Matisse ?
Eh bien Hugo, il s'est vendu à 52 000 euros.
52 000 euros, c'est là, je trouve vous au téléphone. À 52 000 euros, 52. C'est facile, vu ? Fini ? Adjugé, 52 000 euros l'enchère ici.
C'est bien entendu le record de la vente, mais plusieurs autres maillots ont dépassé la barre des 10 000 euros, notamment ceux de Michel Platini, Laurent Blanc, Lilian Thuram ou encore Kylian Mbappé. L'expert qui a orchestré l'événement, Jean-Marc Lenay, raconte pourquoi la vente était si particulière.
J'organise régulièrement des ventes avec l'étude Milon, mais là nous sommes dans le plutôt très exceptionnel. C'est très rare d'avoir une collection de cette nature qui nous arrive entre les mains. Le maillot de Zidane est un vecteur d'émotion. Il faut le rappeler, tout le monde se souvient, en fonction de sa génération, où il était, ce qu'il faisait, s'il a regardé le match et avec qui il a regardé le match.
Au milieu des collectionneurs passionnés, certains ont profité de ces enchères pour servir des bonnes causes. C'est le cas de Joël. Son objectif, c'est de trouver des personnes intéressées pour racheter des lots afin de financer une association. Samedi, il a dépensé autour de 20 000 euros.
J'avais deux maillots dans le viseur et j'ai réussi à en avoir un, donc c'est bien. Matthäus, Lothar Matthäus en Allemagne, donc c'est un gros maillot porté, donc ça, voilà, ça a beaucoup de valeur. Et je sais que ça va intéresser normalement des collectionneurs qu'on a autour de nous et ça va faire du bien à notre association qui est caritative et qui va dans l'axe d'aider les enfants malades et les familles d'enfants hospitalisés.
Henri Émile, 82 ans aujourd'hui, peut être serein. La collection qu'il a léguée à son fils il y a quelques temps va donc faire des heureux.
Merci Mathis Landais. Marc Libra, c'était il y a deux semaines, vous étiez dans le bureau de Radio Foot avec un maillot justement, celui de Jérémy Mathieu, époque Barça, finale 2015, de la Ligue des Champions ouais. 2015, c'était peut-être pas le maillot de la finale, mais c'était un maillot
face à City.
Ouais. Voilà, donc de la grande équipe de Luis Enrique déjà à l'époque, la fameuse
dernier
MSN,
le dernier triplé
du Barça. Vous y connaissez un petit peu en collection de maillots, ça vous étonne les ordres de grandeur que nous a présenté Mathis ?
Non, mais déjà 52 000, c'est hors frais, donc il faut rajouter 30%, ce qui fait un peu plus de 67, 68 000 euros quand même.
Pour un maillot.
Pour un maillot, il a déboursé. Après, officiellement, pour moi, le maillot de
J'espère
Zidane.
C'est sa taille.
Tu sais, à l'époque.
Je suis pas sûr qu'on le met à ce prix-là. Je suis pas sûr qu'on le porte.
À l'époque, c'est des tailles uniques. Tu n'as pas de. Tu peux voir les images encore dans le journal L'Équipe. Les maillots sont très grands. En 98, 99 ou 2000, on n'a pas encore les maillots. Ah ouais. Ils ne sont pas encore fités. Donc, ce ne sont pas de réplicas. C'est le maillot que tu peux acheter à la boutique. Après, ce sont peut-être des maillots. Il n'a jamais été porté. C'est peut-être les maillots de représentation. Parce que si c'est le vrai maillot porté, ça vaut 3, 4 millions. Ça n'a pas
parce
de prix.
Qu'on comprenne bien, lors d'un match. Il y a plusieurs maillots portés plusieurs jeux de maillots.
En équipe de France, par exemple, vous avez vos maillots. Bah, à l'époque, nous, c'était deux maillots. Et les partenaires, les sponsors ont votre maillot aussi, puisque les partenaires qui payent, comme on va pas citer de marque, mais bah, ils veulent le maillot de petit.
Dans
de
les loges,
Turin,
ils repartent
loges.
Avec leur copie du maillot.
Si
quoi.
Vous allez en loge, vous avez toujours des cadeaux, et plus vous êtes dans les plus grandes loges, comme le sponsor, par exemple, officiel qui était à l'époque, bah, les maillots, il y en a un peu partout, et vous partez avec le. C'était brodé. C'est peut-être ce genre de maillot.
Aujourd'hui, les joueurs du PSG, je crois qu'ils ont trois jeux de maillot par match.
Oui.
C'est-à-dire, en général, ils en mettent un en première période, un en deuxième période pour ceux qui aiment bien que ça soit bien sec. Et puis, il y en a un autre si jamais, je sais pas, vous êtes accroché, il y a un coup de crampon, il se déchire. Donc, il fallait vite que l'intendant il aille au vestiaire pour vous ressortir votre troisième maillot.
Après, si j'ai bien compris, donc si j'ai bien suivi, donc celui qui a été vendu 52 000 euros dans le reportage de Mathis ne sentait pas la sueur de Zidane et n'a pas sauté avec lui pour marquer des buts de la tête.
Ils l'ont expliqué.
C'est la mythologie de 98 qu'on paye là.
Mais on paye quand même 52 000 euros.
Oui, mais
ça, c'est impressionnant.
Moi, j'aurais de l'argent, j'irai à fond parce que en fait aujourd'hui, je pense que beaucoup de gens se souviennent de la victoire 98 et peuvent mettre des noms sur les vainqueurs. Par exemple 2018, si je vous dis que Steve Nzonzi a été champion du monde, vous saurez pas trop. En tout cas, dans la rue, les gens ne sauront pas. Alors que un Guy Varche, un Emmanuel Petit, un Carambeu, ça dira toujours quelque chose aux gens. On est en pleine mythologie française. C'est le premier titre mondial. Tout le monde se souvient, comme a dit le monsieur à Matisse, de là où on était le 12 juillet 98, le jour de la finale. Zidane était projeté sur les champs. Bah, c'est des images qui ont dépassé le cadre du sport. Ça appartient à l'histoire de France.
Ah, carrément.
Ah oui.
C'est-à-dire qu'on est à ce point, on est quasiment dans la pièce de musée, alors la pièce de collection avec un C majuscule, Chérif Guémour.
Non, mais Dominique a parfaitement raison, c'est le prestige de la victoire de 98. Après, qu'est-ce qu'on en fait de ces maillots? On les porte, on les encadre, on les...
Tu les mets sous verre.
Mathis, la question s'adressait à vous, mais je ne suis pas sûr qu'on vous ait répondu là-dessus.
C'est juste une petite question que je voulais poser. Le fils d'Henri Émile, c'était comment dire une partie des recettes, de la vente. Est-ce qu'il y avait une partie qui était réservée, je ne sais pas, à des associations caritatives ou...
Mais il en parle, Mathis, justement. Donc
je parle des ventes du vendeur, c'est-à-dire le fils d'Henri Émile.
Oui, je crois qu'il a aussi prévu de reverser ses
fonds, très bien.
Justement, à une association
c'est
caritative.
C'est très bien, parce que je fais une petite parenthèse. Aujourd'hui, les joueurs sont de plus en plus réticents à offrir leur maillot à la fin d'un match. Ils le font de temps en temps à un gamin et tout, parce qu'on sait maintenant que ces maillots sont revendus et parfois très chers. Donc voilà, vous pouvez voir certains joueurs des fois qui ne donnent pas leur maillot quand les gamins les appellent et tout.
Donc, non, mais il y a un véritable business aujourd'hui.
Il y a un business, vous n'avez pas idée.
C'est... Mais au-delà du business, quel plaisir, parce que vous connaissez quelqu'un qui collectionne beaucoup de maillots, quel plaisir on retire d'une telle collection ?
À les regarder, souvent,
Ouais. Non, mais
à les sortir c'est une vraie
question,
de l'armoire.
Donc on les encadre, on les met tu...
Non, moi je sais que...
Ça dépend de la place qu'on a. Louis Nicolin, il avait un musée.
Oui, mais Louis Nicolin, c'était des maillots exceptionnels. Là, on parle pas de la même chose. Lui, peut-être de Zidane, de la finale, peut-être que lui possédait.
Ouais.
Voilà, il avait
l'ancien président de Montpellier.
L'ancien président de Montpellier.
Soyez, c'est un hangar.
Mais après, c'est le plaisir de les regarder, de les toucher, voir les matières. Moi, mes maillots de l'époque de l'OM, je reçois fréquemment des demandes. Si j'ai pas des maillots, les gens vont me les acheter. Mais je les vends pas. C'est mon fils qui les garde. Mais la matière est différente. Mais à l'époque, attention, on peut aller acheter un maillot à la boutique du sponsor du club. Vous vous débrouillez pour mettre les sponsors officiels. Ouais. Vous avez un maillot, voilà. Il y avait, à l'époque, moi, il n'y a pas marqué Libra, il n'y a rien écrit derrière. Il faut être précis.
L'acheteur est anonyme. Hein.
Oui, mais il n'était pas présent en salle de vente.
Oui, c'est au téléphone.
Il ne faut pas s'imaginer, comme dans les vieux films, plein de gens qui lèvent les mains. A priori, ça se faisait beaucoup à distance.
C'était le cas aussi, mais effectivement, les plus gros acheteurs, c'était toujours au téléphone ou en ligne.
Alors, je pense que c'est Zidane. Ouais. Parce qu'en fait, les joueurs de l'époque n'ont pas mesuré la portée historique de leur victoire. Et donc, ils ont tout donné. Et aujourd'hui, ils se disent, mais j'ai plus rien pour mes enfants, pour transmettre et tout ça. Et donc, ils appellent anonymement pour récupérer un peu de leur part d'histoire.
Et nous, bientôt, on mettra les bonnettes de micro de Dominique Sévrac
aux enchères.
Louis Nicolin avait toujours un ou plusieurs envoyés dans des salles de vente, mais les plus obscures de toute la France.
Et il demandait à tous les joueurs après le match, là, il demandait à tous les joueurs, s'il te plaît, un ou deux maillots.
Ouais. Merci Marc Libra, merci Mathis Landé, merci. Dominique Sévrac et Chérif Guémour, elle va très bien, 4 euros également. On a un deal. 5, merci Laurent Salerno et salut du demain. Olivier Pron, à la tête de Radio Foot.